en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peut-on faire confiance aux historiens? C'est le thème de travail principal de l'Académie des sciences morales et politiques en cette année 2005, placée sous la présidence de l'historien Jean Tullard. Peut-on, faut-il, faire confiance aux historiens? Un thème décliné chaque lundi en séance avec une communication, séance publique, une communication prononcée par un membre de l'Institut, un membre de l'Académie des sciences morales et politiques ou une personnalité extérieure. Et le lundi 31 janvier, c'est M. Christian Poncelet, président du Sénat et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est venu devant ses confrères lire une notice, la notice de Bernard Destremau, ancien membre de l'Académie. Le thème de cette communication, la vie et les travaux de Bernard Destremau. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Mes chers confrères, mesdames, messieurs, rares sont les hommes qui, dans le courant de leur existence, auront, comme Bernard Destremau, vécu tant de vies différentes. Dans ses mémoires, intitulé « Le cinquième sept » et paru en 1986, il récapitule ainsi, sur un mode mi-ironique, mi-désabusé, je le cite. « Peu après mon retour d'Amérique du Sud, un agent de la circulation, après avoir examiné mes papiers, m'a demandé ma profession. Comme je lui répondais que je n'en avais pas, il parut stupéfait. « Mais enfin, vous avez bien un métier, une activité !» dit l'agent. Je ne voulus pas le contrarier. Alors, je lui donnai quelques précisions. Ancien ambassadeur, ancien ministre, il insista, croyant que je blaguais. Ancien député, ancien lieutenant-colonel de réserve, soudainement, je fus pris d'un léger vertige par l'énumération. J'ai failli ajouter « ancien champion de tennis ». Le policier m'aurait ri au nez. Fin de citation. Encore à cette date, ne pouvait-il pas encore ajouter « auteur de biographies historiques et membre de notre institut ». Le vertige qui saisissait Bernard Destremau en cet instant n'est rien en comparaison de celui qui étreint en cet instant son biographe. Comment, au travers de toutes ces vies, faire transparaître la destinée de l'homme qui les sous-tend, faire apparaître son caractère, faire revivre, ne serait-ce que quelques instants, celui que tant de personnes ici ont connu bien mieux que moi. Ce défi académique qui s'impose à chacun d'entre nous, mes chers confrères, je tenterai de le relever à mon tour, en essayant dans cette séance de faire renaître dans l'esprit de mes auditeurs, ne serait-ce qu'un instant, un souvenir, une image, ou même une émotion, qui leur remémoreront notre regretté confrère. Bernard Destremau est né le 11 février 1917 à Paris, dans une famille de militaires. Sa jeune enfance s'est déroulée dans l'atmosphère d'une armée française auréolée de la gloire de la victoire sur l'Allemagne. La famille Destremau voyagea beaucoup, au gré des affectations du père, en Tchécoslovaquie d'abord. À l'issue du premier conflit mondial, l'armée française était appelée dans tous les pays nouvellement créés afin d'y organiser une armée nouvelle. Le général Destremau commandait une partie de l'armée tchèque à Kotiše, en Slovaquie. Végan était en Pologne. Pelé à Prague. Berthelot en Roumanie. De retour en France, le général Destremau prit le commandement d'une brigade de dragons, des régiments d'autres armes. Le 152e d'infanterie et le 5e d'artillerie renforçaient encore cette garnison pléthorique. Le jeune Bernard était impressionné par les défilés, la noblesse des uniformes, l'aura de gloire qui entourait l'armée française. Ses deux frères, plus âgés que lui, étaient l'un à Saint-Cyr, l'autre en train de préparer son entrée à Saint-Cyr. Ses cousins étaient à Naval. Le destin semblait alors tout tracé. Bernard serait sans doute, lui aussi, militaire. Mais l'immersion dans un monde de civils, une fois que sa famille se fut installée à Lyon, et le déclin progressif du prestige de l'armée, au fur et à mesure que s'éloignait la geste guerrière de la Grande Guerre, devait bientôt rendre incertaine la vocation première. La gloire des armes était repoussée plus loin, dans les colonies, au Maroc par exemple, où se déroulait la guerre du Rif. Le sous-lieutenant Paul Lapeyre s'y forgea une figure de héros pour avoir fait sauter le fortin qui le défendait, plutôt que de se rendre. Mais en métropole, si ce terrorisme faisait encore rêver, d'autres héros étaient en train d'apparaître. Les sportifs. Il y a une continuité évidente entre l'un et l'autre. L'exaltation du corps, de l'exploit individuel ou collectif, l'orgueil national. Les années voient l'engouement de la France pour ses héros modernes. Certains sont d'anciens combattants, comme ces aviateurs qui se lancent alors à la conquête de records ou d'exploits inédits, ainsi Nagesser et Fonck, qui tentent chacun dans un sens, mais avec un inégal succès, de traverser l'Atlantique. Des automobilistes s'attaquent à de longs raids à travers l'Asie ou l'Afrique. Le boxeur Georges Carpentier réunit des foules énormes. L'escrimeur Lucien Gaudin domine durablement la discipline de l'échelle internationale. Mais c'est pour un sport récemment apparu et en pleine expansion que va durablement battre le cœur des Français. Le tennis. La véritable histoire du tennis commence le 23 février 1874. Ce jour-là, le major Walter Clopton Wingfield fait breveter à la Chambre des métiers de Londres un nouveau jeu de court-pomme, vendu d'abord sous le nom de Feristike, du grec signifiant art de la balle. Puis en 1877, sous le nom de Lev Tennis, plus facile à retenir. À partir de 1890-1900, le Lev Tennis se diffuse dans le monde entier. Le terme Lev Tennis sera peu à peu abandonné au profit du mot tout simple tennis, en raison de la diversité des surfaces, terre battue ou ciment. Dès 1900, chaque pays organise des tournois nationaux et internationaux. La Coupe Davis, créée en 1900 par Rick Davis, se popularise et devient la plus grande compétition par équipe du monde. Les années 20 sont peut-être les plus belles pages de l'histoire du tennis mondial. En 1925, le championnat de France devient international. C'est alors la naissance de Roland-Garros, le plus grand tournoi de terre battue, qui rivalise avec Wimbledon ou les internationaux d'Australie. Cet engouement nouveau est porté par quatre hommes, les mousquetaires, Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste et Jacques dit Toto, Brugnon. À eux quatre, ils règnent pratiquement sur tous les tournois du Grand Chelem et sur la Coupe Davis pendant 6 ans, de 1925 à 1932, date de la dernière victoire de Cochet à Roland-Garros. Bernard Destremaux suit leur exploit dans Miroir du sport. Dans sa famille, la pratique physique est une tradition, tout autant que la pratique musicale. Ses frères avaient pratiqué le football, la boxe et le tennis. Animé par l'exemple de Lacoste, enhardi par la vue de la Coupe Davis, exposé à Lyon avec la raquette de la victoire, Bernard Destremaux demande à être inscrit dans un club. Ce sera le Tennis Park de Lyon. Il a 12 ans. À l'époque, le tennis reste un sport d'amateur, même si les années 30 voient le début d'une évolution vers le professionnalisme. Il n'était pas question pour Bernard Destremaux de prendre des cours. Les professeurs étaient réservés aux sportifs fortunés. Une fois pourtant, en 1930, devenu parisien, il s'offrit ce luxe. En engloutissant les 120 francs que ses parents lui avaient donnés pour les étrennes, dans une leçon avec Martin Plat, alors entraîneur de l'équipe des Coupes Davis. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste de taper les balles. Et c'est ce que fait le jeune pensionnaire le jeudi et le dimanche sur le fronton de son lycée. L'exemple des aînés compte également beaucoup. D'autant que les aptitudes physiques et le talent de Bernard Destremaux le font rapidement remarquer. En mai 1932, alors que Bernard d'Estremont n'est encore qu'en fin de deuxième série, Jean Borotra en personne lui propose de jouer un match. Quelques semaines plus tard, c'est Lacoste qui, par suite d'une défection, lui téléphone de venir à Roland-Garros pour disputer 2-7. Au fil des ans, le classement de Bernard d'Estremont s'améliore, si bien qu'en 5 ans, il accède à la première série. Son premier grand tournoi, il le remporte en juillet 1935, au Touquet. Il gagne contre les meilleurs joueurs du moment, M. Bernard, André Merlin et Christian Boussus, alors numéro 1 français. Bernard d'Estremont est alors confronté au premier choix de son existence. Poursuivre ou non ses études. Le monde dans lequel évoluent les joueurs de première série est à coup sûr attrayant. Les tournois, les palaces, les invitations mondaines, les traversées transatlantiques sur le Normandie, la célébrité, les succès féminins enfin. La voie des études est certes plus austère, mais il était inconcevable qu'il ne sorte pas d'une grande école. Ainsi, il entra à HEC, aux études commerciales en 1936. Mais de telles études ne convoquent pas seulement l'intelligence, mais aussi la mémoire, et en un mot, le bachotage. Bernard d'Estremont a craint un temps que ses deux devoirs, réussir ses études et jouer au tennis, se révèlent irréconciliables. Il n'en fut rien. Il obtint son diplôme d'HEC en 1939, après avoir vécu 3 années d'intense activité sportive. En effet, en 1937, il est pour la première fois sélectionné dans l'équipe française de Coupe Davis. Il gagne 5 des 6 matchs, mais la France n'accède pas à la finale. Il fait une prestation honorable à Wimbledon, sans résultat marquant. Mais les Français prouvent, au cours de l'été, qu'ils ont atteint le niveau international en faisant match nul avec l'équipe américaine en Coupe Davis. Toujours en 1936, d'Estremont bat Lacoste, le grand ancêtre, à Paris, avant de remporter en double avec lui tous ses matchs à la Coupe du Roi, nouvellement créée par le roi de Suède, Gustave V. Ils en gagneront la finale en janvier 1937 à Stockholm. À leur retour, il fut reçu officiellement par le président de la République, Albert Lebrun, le Lorrain. Bernard d'Estremont connaît alors le début de sa consécration comme joueur de tennis. La victoire de Stockholm lui valut d'être, pour une fois, à Monte Carlo, du roi descendant de Bernadotte. Mais la roche tarpéienne est proche du Capitole. Les résultats des années suivantes, s'ils ne furent pas insignifiants, furent plus difficiles. Le travail estudiantin ne laissait peut-être pas assez de liberté à Bernard d'Estremont pour réellement délivrer son jeu. Il gagna toutefois le championnat du monde universitaire 1937, le tournoi de Baden-Baden 1937 et arriva en finale du championnat d'Allemagne en 1938. Mais la victoire la plus éclatante de cette période fut sans nul doute celle qu'il remporta en double avec Petra en finale à Roland-Garros contre la paire américaine Budget Mako, invaincue depuis 3 ans. Sans conteste, Bernard d'Estremont était très proche du plus haut niveau mondial. Sa décision était prise. Une fois empoché le diplôme d'HEC, il consacrerait 2 ans de sa vie au tennis. Ce devait être les années 1940 et 1941. L'histoire en décida autrement. Malgré l'insouciance de la jeunesse, Bernard d'Estremont et ses équipiers ont vu s'amonceler sur l'Europe les lourds nuages avant-coureurs et annonciateurs de la guerre. Le 29 août 1939, ils sont à Philadelphie pour assister à la finale de la Coupe Davis, qui oppose les États-Unis et l'Australie, avant de participer au championnat de Boston. Les États-Unis avaient gagné les 2 premiers simples, l'Australie le double. Sombre, Brugnon rappela alors, un sombre présage. En 1914, les Australiens avaient battu les États-Unis et la guerre fut déclarée dans les jours qui suivirent. Les Australiens remportèrent une nouvelle fois les 2 derniers simples et une nouvelle fois, on apprit la nouvelle de l'entrée en guerre de la France et de l'Angleterre contre l'Allemagne. Bernard d'Estremont et Brugnon s'embarquèrent 3 jours plus tard sur un navire américain en partance pour l'Europe. Après une escale anglaise, ils parviennent à Bordeaux. Bernard d'Estremaux regagne le dépôt de cavalerie numéro 21 à Paris, quartier du Plex, avant d'être affecté à Rambouillet, au quartier du 4e Hussard, pour préparer l'école de Saumur. Le changement de vie est radical pour le jeune élève officier. Habitué, peu de temps avant, encore au luxe et au raffinement qu'offrait la vie d'un joueur de tennis en vue, et qui se retrouve, deuxième classe, astreint aux corvées ordinaires. Il les supporte néanmoins grâce à l'esprit de camaraderie qui rapproche milieu sportif et milieu militaire. Et puis Bernard d'Estremaux n'est pas dépaysé par ce monde, qu'il connaît bien depuis l'enfance, famille de militaires. La vocation initiale semble ironiquement le rattraper. Après son passage à Saumur, où il semblait parfois que certains officiers préparaient encore la guerre à cheval, Bernard d'Estremaux, avec son galon d'aspirant sur la manche, fut affecté à Montlhéry, au centre des automitrailleuses et des motos. Dans une France somnambule, selon sa propre expression, il apprenait avec ses camarades le métier et l'art du commandement dans les unités motorisées. Mais à la sortie, rares furent les aspirants à qui furent confiées des unités motorisées. Elles le furent de préférence à des lieutenants qui avaient bravement combattu sur leur monture en 1914-1918. Bernard d'Estremaux, quant à lui, fut affecté à des missions de liaison. Puis, quand les choses allèrent mal, à la défense rapprochée de généraux. C'est en direction du sud qu'il conduisit le général Rupied, directeur de la cavalerie. Avant d'être démobilisé en septembre 1940, Bernard d'Estremaux finit son premier passage sous les drapeaux par une affectation à Montauban, où il commande un peloton de cavaliers, exactement la même qu'occupait son père en 1980. Comme si en 50 ans, aucune leçon n'avait été tirée de notre histoire. La France est abattue. Que peut-on y faire? Tel est sans doute l'état d'esprit de Bernard d'Estremaux et de nombreux Français en cet automne 1940. Que peut-on y faire? On mesure mal aujourd'hui ce climat d'habitude qu'a pourtant si bien décrit notre confrère Albert Amouroux dans son histoire des Français sous l'occupation. Que faire d'utile? D'abord retrouver sa famille. Bernard d'Estremaux retrouve ses parents à Nantes et apprend que ses deux frères ont été faits prisonniers. Que faire ensuite? Question. Tenter de recommencer à vivre normalement, malgré les événements? Les trois premières années de l'occupation, Bernard d'Estremaux les vivra entre le tennis et les études. Il s'inscrit à l'école des sciences politique en 1940. Il les passa entre Paris et le sud tunisien, où sa famille possède des plantations d'oliviers. Ses études marchent bien, puisqu'il obtient sans accroc son diplôme de Sciences Po. Son tennis se porte également bien. Il joue plusieurs tournois en France, mais aussi en Espagne et au Portugal. Il est alors le meilleur joueur français, sans contestation possible, vainqueur de Bossus et de Petra. Et Lacoste, qui n'avait pourtant pas le compliment facile, pronostiquait que si un tournoi international était organisé à Wimbledon, Petra et d'Estremaux pouvaient très bien se retrouver en finale. Beau compliment. La réponse à la question que se posait Bernard d'Estremaux depuis 40, « Que puis-je faire d'utile ?» arriva le 8 novembre 1942, lorsque les Américains débarquèrent en Afrique du Nord. L'objectif de pouvoir participer militairement à la lutte contre l'Allemagne ne semblait plus un rêve lointain comme auparavant. Il fallait donc s'enfuir. Préparant d'un côté son départ pour l'Espagne, Bernard d'Estremaux, dont on commençait à soupçonner la volonté, trouvait un travail chez Pathé, grâce à Wilfried Baumgartner, et s'inscrivait au concours des affaires étrangères. Ayant enfin trouvé une filière, il quitta son domicile le 2 février 1943 pour n'arriver au Maroc que 3 mois plus tard, après avoir traversé les Pyrénées, vécu dans le milieu des réfugiés français à Madrid et avoir transité par le Portugal. À Alger, Bernard d'Estremaux se retrouva dans l'ambiance qu'il avait déjà connue à Madrid, celle de la suspicion généralisée entre des Français profondément divisés entre gaullistes et giroudistes. Ce climat délétère, qui ne prit fin qu'avec la mise à l'écart du général Giraud, s'estompa cependant à mesure que les armes américaines étaient données aux soldats et que la fébrilité dans les cours avec l'ennemi augmentait et chez les uns et chez les autres. Peu avant Noël, Un chef charismatique, esthète, était donné à cette armée. Ce chef, c'est Jean de La de Tassigny. Cette personnalité hors du commun fascina pour longtemps Bernard d'Estremaux, qui au soir de sa vie lui consacra une biographie extrêmement documentée et qui restera pour bien des années la référence incontestée sur ce maréchal de France. Après plus de 6 mois de préparation et d'attente, le jour J approchait, qui mena l'armée sur les côtes de Provence. Le 15 août 1944, la large flotte arrive au large de la côte d'Azur et débarque sans peine dans la baie de la Nartelle, la zone ayant été nettoyée quelques heures auparavant par des troupes parachutées. Bernard d'Estremaux est dans les premiers de son escadron à retrouver les 5 chars de son peloton. Il prend à leur tête la route de Grimaud. Il ne sait pas encore qu'il les conduira en Allemagne. La première mission qui lui fut confiée agit rapidement contre Toulon, de craindre que les Allemands n'aient le temps de faire sauter l'arsenal. Avec ses 5 chars, il se fit remarquer par une grande bravoure dans la bataille qui se déroula dans le petit village de la Valette du Var, au cours de laquelle il fut blessé par balle. Cela, cependant, ne l'empêcha pas de poursuivre sa route avec l'armée de libération. Après Marseille, ils ne rencontrèrent que peu de résistance jusqu'en Bourgogne. Mais les difficultés reprirent dès l'attaque contre Belfort, puis surtout lors de l'offensive d'Alsace qui s'avéra plus pénible et meurtrière que prévu. Le 5 avril, pourtant, ils franchissaient le Rhin et prenaient la direction de Baden-Baden, puis d'Ulm, qui n'avait pas vu les armées françaises depuis 140 ans. Le temps des armes s'achevait. Et Bernard d'Estremaux fut démobilisé le 5 novembre. Il avait obtenu le grade de lieutenant à titre exceptionnel. Que faire après une telle aventure? La guerre était une épreuve. Mais elle offrait une image simple du monde, avec un ennemi, des camarades et des gestes simples à réaliser pour vivre et survivre ensemble. La paix apportait, elle, plus d'incertitude. Devant ses hommes et avant de quitter son peloton, Bernard d'Estremaux s'exprima d'une manière qui caractérise parfaitement son caractère profond. Je cite. La guerre fournit les seules occasions où l'on aime vraiment les hommes. Vous n'avez pas hésité, lorsqu'un copain était dans un drame, à essayer de l'en tirer, alors que vous auriez pu vous défiler. Dans la paix, lorsque vous aurez l'occasion de faire une petite saloperie à un autre, ou de vous laisser aller à une petite lâcheté, reprenez-vous. Ne faites pas le mal, ne serait-ce qu'en pensant à ceux qui sont tombés autour de vous. La paix, vous allez voir, c'est plus difficile que la guerre parfois. Restez généreux, gardez votre caractère et votre dignité. Fin de citation. Cette générosité, cette volonté de demeurer authentique, cette action à ne pas déchoir par rapport à l'image qu'on a de soi, voilà 3 traits essentiels que nous avons tous pu retrouver un jour ou l'autre dans l'attitude élégante de notre confrère trop tôt disparu. Reprendre le tennis. C'était une possibilité, presque une nécessité sans doute. Ne l'avait-on pas déjà demandé pour une rencontre militaire organisée à Wimbledon sous les auspices de Madame Churchill? N'avait-il pas gagné? Les années de guerre ne l'avaient pas diminué physiquement. Mais il vieillissait et une déchirure du talon d'Achille en 1948 lui interdit de penser revenir dans les 10 premiers joueurs mondiaux. Pour autant, il maintint de bons résultats au niveau national pendant 10 années, étant même premier joueur national en 1950 et 1951. Pourtant, oui, il obtint de bons résultats. Il disputa son dernier match de Coupe Davis en 1952 et le remporta. Il gagna le championnat de France national en 1953. Puis, après avoir été 2 ans capitaine de l'équipe de France, il disputa son dernier Roland-Garros le 10 juin 1955. Une époque de sa vie s'achevait. Le tennis sera dès lors pour lui un plaisir amical ou familial. Mais en avait-il été jamais autrement? La carrière de Bernard d'Estremaux avait été assez longue pour voir s'accentuer les tendances qui se laissaient à peine deviner dans les années 30. L'interdiction des professionnels dans les tournois nationaux et internationaux et les profits de plus en plus importants que dégageait la pratique sportive n'était pas une situation longtemps enviable. Les années 50 furent celles qui virent se développer l'amateurisme marron, fondé sur la connivence entre dirigeants et joueurs, les premiers restant dans le cadre des associations à but non lucratif, les seconds touchant de généreux dessous de table, exempts de toute imposition. Ce système fut dénoncé par Bernard d'Estremaux dès 1955 dans son ouvrage « Tout le tennis ». Il y préconisait l'organisation de tournois mêlant amateurs et professionnels 13 ans avant que le premier tournoi Open fût organisé en 1968. Mais le problème que se posait avant tout autre Bernard d'Estremaux en 1945 était de gagner sa vie. Le tennis n'ayant jamais été qu'une pratique désintéressée, même s'il demandait du sérieux, de l'entraînement et du courage dans l'exécution. Le goût des voyages et l'habitude des réceptions dans les ambassades qui avaient marqué sa carrière de joueur de tennis le conduisirent alors à envisager d'entrer au Quai d'Orsay. Se présentant avec son diplôme de Sciences Po, il fut intégré à l'administration des affaires étrangères qui demeurait alors la plus prestigieuse. Il fut nommé tout d'abord à la direction des affaires économiques, puis à la direction d'Amérique. En 1949, il obtint sa première nomination dans une ambassade à Bruxelles, auprès d'André-François Poncet, qui d'ailleurs l'avait incité à entrer dans la carrière. La capitale belge restait encore une place diplomatique importante. Il y retrouva Delattre, qui était adjoint de Montgomery, dans le traité d'alliance et de défense qui unissait la France, l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg contre le danger d'une renaissance de la menace allemande. Il fut l'auditeur attentif du maréchal, qui lui exposa les griefs qui l'opposaient sans cesse au général anglais. Bernard d'Estremaux fut également présent en 1950 à la signature du protocole de l'OTAN. Il se chargea par la suite des problèmes concrets que posait l'installation des troupes américaines sur le sol français, tant en termes de logement que de nourriture. En 1954, il fut rappelé à Paris pour devenir chef de cabinet de Roland de Moustier, secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement Mendès-France. L'heure était au règlement de la guerre d'Indochine et à l'enterrement de la communauté européenne de défense, la CED. L'un et l'autre sont réalisés rapidement, mais le gouvernement ne résiste pas à l'impopularité de son chef et tombe rapidement. Peut-être par goût des personnages mal aimés, Bernard d'Estremaux affirma toujours sa sympathie à ce président du Conseil qui, pour lui, était l'homme de la situation. Quittant le cabinet, Bernard d'Estremaux, qui vient d'épouser celle qui l'accompagnerait toute sa vie, et lui donner 3 enfants, et nommé premier secrétaire auprès de l'ambassade de France en Égypte. En 1955, Bernard d'Estremaux arrive au Caire, dans un contexte déjà passablement tendu. Les Anglais ont évacué leurs troupes du canal de Suez depuis un an. Les Français soupçonnent, plus ou moins à bon escient, la main de Nasser derrière les événements d'Algérie. L'ambassadeur de France, Armand Duquella, qui a succédé à ce poste à Maurice Coudoméville, tente une politique d'équilibre entre le gouvernement égyptien et le gouvernement français, répétant à qui veut l'entendre que la route d'Alger ne passe pas par le Caire. Il connaissait bien l'Orient, pour avoir été ambassadeur à Beyrouth. Il connaissait en particulier ce mot prudent d'un homme politique libanais, « En Orient, on ne sort de l'équivoque qu'à son détriment ». Mais quels étaient ses moyens d'action? Ils étaient bien minces. Car au fur et à mesure que la crise allait se développer, il allait apparaître clairement que le gouvernement français s'inspirait de bien d'autres conseils que de ceux du corps diplomatique en place dans le pays. Ainsi, les contrats de vente d'armées passés grâce à l'action de l'ambassadeur furent dénoncés unilatéralement peu de temps après, en rétorsion après les émeutes de Meknès et du Constantinois. Alors qu'Armand Duquella tentait de maintenir l'influence française en Égypte, en étant particulièrement intransigeant sur les questions linguistiques, Paris jouait ouvertement la carte d'Israël. Il tenta cependant, aidé de Bernard d'Estremaux, d'user de son influence pour que la France accepte de participer au financement du grand barrage d'Assouan. De passage à Paris, Bernard d'Estremaux vit son ami Bourgès Bonnoury, ministre de la Défense, puis son ancien professeur Wilfried Baumgartner, alors gouverneur de la Banque de France. Ses actions en faveur d'un engagement français furent vaines, car la réponse vint de Washington par la voix de Foster Dulles, qui rejetait la demande de crédit égyptien. On connaît la suite, la nationalisation du canal et la réaction militaire de la coalition franco-britannico-israélienne. Jamais sans doute. Les avis et conseils des diplomates ne furent plus mal entendus qu'en cette occasion. Les services de renseignement décrivaient en Nasser un tyran peu soutenu par son peuple. La victoire serait facile, disait-on. On connaît bien cette antienne. La guerre est imminente. Le 29 octobre, Israël s'empare de la bande de Gaza et attaque le Sinaï. Les troupes françaises et anglaises suivront dans quelques jours, plus tard à Port Saïd. Bernard Lestremau n'est déjà plus en Égypte. Il l'a quitté le 24 octobre pour rejoindre à Paris sa femme qui vient d'accoucher d'un petit Gilles. Il conçut une certaine amertume de cette expérience égyptienne. Il la résume ainsi. Au cours des 18 mois que je passais à l'ambassade, comme simple premier secrétaire, mais ayant travaillé en étroite intelligence avec l'ambassadeur, je vis tenter deux politiques. Ce fut d'abord, inspiré par la sagesse, une politique de compromis dont le chef de mission en Égypte fut chargé. Elle aboutit à certains résultats qui interdisent, à mon sens, une condamnation. Suppression de l'entraînement des commandos nord-africains, modération indiscutable de la radio La Voix des Arabes. Conclusion de différents contrats commerciaux et d'armement, position culturelle de la France renforcée. Elle dura 6 mois. Ce fut ensuite, inspiré par le ressentiment, une politique de panache que certains membres du gouvernement, ignorant les avis de notre représentant officiel au Caire, voulurent faire triompher. Elle dura 12 mois. Traversée d'hésitations, de contretemps, d'incompréhension et de maladresse. Elle porta les fruits que l'on sait, je ne le rappelle pas. Ces fruits amers de l'humiliation et de l'isolement, Bernard Lestremau put les déguster à New York. Au cours de 6 longs mois de session à l'ONU, pendant lesquels il appartint à la délégation française menée par M. Bernard Cornu-Gentil. Après un bref séjour à Paris, où son avancement lui paraissait bloqué, il partit en 1959 pour prendre une affectation à l'ambassade française en Afrique du Sud. Il y découvrit l'apartheid dans ses aspects les plus mesquins, en particulier le sort fait aux métis. Pendant 3 ans, il s'efforça de comprendre le système qui s'était mis en place, sans pour autant l'admettre, sans pour autant non plus se draper dans les oripeaux de la vertu outragée, qui se portait si fréquemment loin de Pretoria. On retrouve là son souci d'un jugement juste et fin, dicté par la réalité et non par l'image que l'on s'en est faite. De retour en France, il fait un passage rapide auprès du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Étienne de Carbonel, juste le temps de s'apercevoir que le pouvoir a déserté ce poste, la politique étrangère se faisant désormais à l'Élysée. Au début de l'été 1964, il était nommé à Bruxelles. Le poste avait perdu son importance en 15 ans sur le plan bilatéral. Mais il était un bon poste d'observation et de réflexion au sujet de l'Europe en construction qui traversait alors une crise profonde. Elle en connut nombreuses. Il regarda avec regret les querelles de jadis continuent à diviser en profondeur les Européens. Il vit le développement d'administrations européennes et la complexification des règles. Il assista au retrait de la force du commandement intégré de l'OTAN. En 1966, Bernard Lestremau était depuis 20 ans dans la carrière. Il avait connu des déconvenues, non pas tant dans le déroulement de sa carrière que dans l'intérêt lui-même de cette carrière. Le temps des ambassadeurs était révolu, et ce depuis longtemps. Leur monde appartenait au XIXe siècle. Ils n'étaient plus que des agents d'exécution. Alors revenait la question que Bernard Lestremau se posait pendant la guerre, que puis-je faire pour être utile ? Attiré par la personnalité brillante de Valéry Giscard d'Estaing, par la tentative de création d'une force politique qui se placerait entre les inconditionnels du général et les inconditionnels de la gauche, il avait proposé au jeune ministre des Finances de lui apporter son aide. La réponse vint le lundi 5 décembre. Michel Poniatowski lui téléphona pour lui proposer de se présenter à la députation. Pompidou est d'accord, ajouta-t-il. L'attrait d'une nouvelle carrière et le fait d'avoir compris que la politique étrangère était durablement passée des mains des professionnels à ceux des politiques emportèrent sa décision. Il se présenterait à Versailles et après une courte campagne, elle dura 2 mois. Et l'avenue dans la circonscription de Valéry Giscard d'Estaing et de Maurice Coudonville, il fut facilement élu. Il fut réélu ensuite régulièrement et siégea au Palais Bourbon jusqu'en 1978. Appartenant au groupe des Républicains indépendants, siégeant à la Commission des Affaires étrangères, dont il fut le vice-président, ou la Commission de la Défense, Bernard Lestremau, faisait partie de ces chevaux légers qui, avec Poniatowski, Dominati, Dornano et Duval, entouraient d'Algérie jusqu'à Destin. Le contexte politique était délicat. La majorité gaulliste n'était que d'un siège et un conflit à peine larvé opposait le général et le député du Puy-de-Dôme. Bernard d'Estremaux remporta un succès en juillet 1968 en faisant adopter un amendement relatif à la restitution de certains de leurs décorations aux amnistiés d'Algérie par 269 voix contre 156, ralliant à son texte un tiers des députés gaullistes. En 1969, lors du référendum qui devait entraîner le départ du général de Gaulle, il vota blanc. Ne pouvant trahir son groupe, ni aller contre celui qui depuis 30 ans symbolisait la France. En 1969, Bernard d'Estremaux pensait que Valéry Giscard d'Estaing aurait dû se présenter. Il l'en informa, mais son avis ne fut pas suivi. L'expérience politique de l'ancien ambassadeur lui apporta bonheur et déconvenue. Le bonheur tout d'abord, du contact humain avec les électeurs. Il fut présent dans sa circonscription, qui comprenait une partie de la ville de Versailles, ainsi que Saint-Cyr et d'autres villes limitrophes. Ce contact régulier avec les réalités de la vie quotidienne avait le goût de la nouveauté et le fait de se savoir immédiatement utile ne pouvait que le satisfaire. Autre agrément de la charge, les missions parlementaires d'information dans les pays étrangers, notamment en Inde, en Tunisie, ou en 1974, un grand tour de l'Asie du Sud-Est. Cela lui offrait à la fois matière à réflexion et une bulle d'oxygène qui lui était nécessaire. Mais Bernard d'Estremaux ne put jamais se faire au calcul politicien. Lui, dont l'idéal résidait dans la noblesse de l'acte désintéressé. Sa confiance dans la valeur morale des hommes fut bien souvent déçue. Autre désappointement, de même que le pouvoir d'agir et d'influencer semblait avoir quitté les ambassades, de même en allait-il au Palais Bourbon. Le pouvoir politique avait supplanté le pouvoir législatif. Certes, sans illusion, Bernard d'Estremaux intervint souvent à la tribune sur les affaires internationales et de défense, notamment à l'occasion du vote des budgets. Il n'en attendait rien. Il s'investit néanmoins dans les affaires européennes, militant pour la création d'un système de défense commun. Il appartenait depuis 1968 à la délégation française auprès du Conseil de l'Europe et de l'Union de l'Europe occidentale. Il s'intéressa à nouveau au sport, en particulier à son financement, qui demeurait trop faible. Dès 1969, il proposa de pallier les insuffisances budgétaires par d'autres ressources. Il imaginait la possibilité de faire parier les Français sur les résultats sportifs, en particulier ceux du football, le sport le plus populaire, pour ainsi dégager des sommes qui pourraient servir à la promotion de tous les sports. L'accueil fut mitigé dans un premier temps, mais infatigable, Bernard d'Estremaux n'enterra pas son projet. En 1977, il toucha presque au but. Les commissions concernées avaient donné leur accord. Une majorité semblait possible pour accueillir le texte. La télévision parla du projet. Le président de la République, qui s'était déclaré neutre sur le sujet, alors qu'il était ministre des Finances, trancha. Cette fois, il était contre. La mesure attendit encore 7 ans avant d'être adoptée à l'initiative d'un gouvernement socialiste. Qui se souvient aujourd'hui que Bernard d'Estremaux est le grand-père de l'autosportif? La victoire de Valéry Giscard d'Estaing aux élections présidentielles apporta à Bernard d'Estremaux une nouvelle expérience. Siéger au gouvernement. Le 8 juin 1974, il reçut un appel de Michel Poniatowski qui lui demandait s'il acceptait le poste de secrétaire d'État auprès de Jean Sauvagnargues, ministre des Affaires étrangères. Une telle proposition ne pouvait se refuser. Ou si fut-elle aussitôt acceptée. Un article paru dans l'Aurore lui fit particulièrement plaisir. On pouvait y lire, sous la plume de Roland Fort, les phrases suivantes. Il aurait dû attendre sa 57e année pour que l'on ne dise plus Bernard d'Estremaux, le tennisman, mais Bernard d'Estremaux, le ministre. Il fallait en effet sa nomination de secrétaire d'État aux affaires étrangères pour que sa réussite dans la vie politique prenne enfin le pas sur une carrière sportive hors série. Secrètement, le diplômé d'HEC et de Sciences Po, le conseiller d'ambassade de première classe, le député, avait toujours souffert d'être rétréci à une seule de ses facettes. L'article vengeait de l'ironie qu'il avait dû parfois affronter de la part de l'administration du quai. Aussitôt sa nomination effective, la question qui toujours a surtendu sa vie s'impose à nouveau. Que faire pour être utile? Il s'en ouvre à son ministre et lui propose un programme d'action bien vite accepté. « Monsieur le ministre, dit-il, comme les grandes questions, les relations avec Fazikstone, Moscou, Bonn seront traitées directement par le président et par vous-même, laissez-moi les secteurs dont vous n'aurez pas le temps de vous occuper, des pays communistes, sauf l'URSS, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, l'Amérique latine, l'Afrique anglophone. Et permettez-moi également de vous accompagner à Bruxelles pour les affaires européennes, puisque j'aurai parfois à vous remplacer. Pour Bernard d'Estremaux, la France avait trop souvent négligé une quantité de pays pour lesquels elle représentait encore des valeurs appréciées. Leurs dirigeants ressentaient ce manque d'attention. Il fallait, en leur accordant la considération qu'ils méritaient, en les visitant et en les invitant, leur prouver que la France était toujours celle qu'ils avaient aimée, aussi respectueuse des faibles que des puissants. De plus, si la visite officielle d'un membre du gouvernement de la France peut encore représenter quelque chose à Kuala Lumpur, à Canberra ou à Lima, seule la visite du chef de l'État est digne d'émouvoir Moscou ou Washington. Sur cette ligne de conduite, Bernard d'Estremaux visita 39 pays en à peine plus de 2 ans. La démission du gouvernement en 1976, décidée en secret par le seul Premier ministre, prit de court les ministres. Bernard d'Estremaux espéra un instant de nouveau recevoir un portefeuille, celui de la Défense. Cela aurait bouclé la boucle en le ramenant à son milieu d'origine. Mais il ne fit pas partie de la nouvelle équipe. On le réservait pour une partielle dans les Yvelines. Dans un contexte extrêmement défavorable, il est élu d'extrême justesse avec 457 voix d'avance. Déjà en 1971, il avait échoué à prendre la mairie de Versailles. Les élections législatives de 1978 auront raison de lui. On lui demande de se retirer au profit de Christine Scrivener. Il faut des femmes comme candidate, en échange d'une ambassade. Il accepte. Christine Scrivener déclare finalement forfait. Louis de Guiringot également. On rappelle alors Bernard d'Estremaux qui, fidèle, tente sa chance dans de telles conditions. La victoire était à l'évidence impossible, ce qui prouve son courage et sa loyauté. Ayant quitté le palais Bourbon, Bernard d'Estremaux dut attendre 8 mois pour être nommé ministre plénipotentiaire en Argentine. Il fut élevé à la dignité d'ambassadeur de France une fois en poste. Pour la 3e fois, après l'Égypte de Nasser et l'Afrique du Sud de l'apartheid, il était nommé dans un pays dont le régime était abhorré par une majorité de ses concitoyens. Une nouvelle fois, il fit effort pour comprendre la situation, pour ne pas rompre les liens avec le gouvernement en place, mais en même temps pour ne pas y perdre son âme. Il fit preuve d'un courage certain dans ce poste, en ne taisant jamais le problème des disparus ou des ressortissants emprisonnés. À la veille de la guerre des Malouines, le 28 décembre 1981, il quitta un pays dont le régime allait bientôt sombrer dans le gouffre. Revenu à Paris, que lui restait-il à faire encore? Sa carrière s'achevait, ses amis politiques avaient quitté le pouvoir, l'âge avançait. Se consacrer à lui-même, à sa famille, à ses amis. Voilà une chose que, malgré toutes ses activités, il n'avait jamais négligée, tant elle lui était indispensable. Mais pouvait-il encore être utile? Question, certes oui. Le devoir des aînés est d'édifier les plus jeunes en leur transmettant leur expérience et leur savoir. Bernard d'Estremaux, au soir de sa vie, se consacra à l'écriture. Si on accepte un roman, À chacun sa guerre, paru en 1984, où il replonge le lecteur sans jugement, a priori, dans la grisaille indiscernable des années 40, il se consacre à l'histoire du siècle. Il produisit 2 livres relatant l'un sa vie, le 5e 7, du tennis à la diplomatie, paru en 1986, l'autre, son expérience de la carrière diplomatique et les réflexions qu'elle lui a inspirées. Quai d'Orsay, Derrière la façade, paru en 1994. Les 2 livres, écrits d'une plume alerte, fourmillent d'anecdotes. 2 livres viennent compléter cette œuvre, 2 biographies de militaires héroïques qu'il eut l'occasion de rencontrer, voire de fréquenter. Le général Végan, livre paru en 1989, et le maréchal Jean de la de Tassigny, œuvre monumentale, paru en 1999, dont les renseignements de première main proviennent directement des archives mises à sa disposition par Madame la maréchale. Ce sont ses ouvrages. Sa brillante carrière de diplomate n'est-il pas de tradition que les ambassadeurs siègent dans notre assemblée? Ainsi que l'amitié fidèle de M. Édouard Benfous, chancelier honoraire de l'Institut, qui valurent à Bernard d'Estremaux cette expérience ultime. Être membre de l'Académie des sciences, morales et politiques, il y fut élu le 28 novembre 1995. Et là encore, l'agrément de la compagnie ne lui suffisait pas. Il voulait être utile en créant une fondation qui, chaque année, délivre un prix qui porte son nom à une jeune femme ou un jeune homme qui aurait su à la fois, malgré les difficultés que cela implique, mener une carrière sportive de haut niveau et réussir de brillantes études. Ce prix sera distribué cette année pour la 5e fois. Il souhaitait ce faisant que ces lauréats puissent être les modèles d'une vertu et d'une éthique du sport, et au-delà de la vie tout entière, qu'il jugeait menacée. Tout comme je souhaite aujourd'hui avoir fait œuvre utile en donnant comme exemple d'une vie digne celle de notre regretté confrère Bernard Destremau. Merci de m'avoir écouté.
C'était Monsieur Christian Poncelet, président du Sénat, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, présentant une communication le lundi 31 janvier devant l'Académie des sciences morales et politiques, une séance publique consacrée à Bernard Destremau, ancien membre de cette Académie. La vie et les travaux de Bernard Destremau, le texte, vous pouvez le retrouver intégralement sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr.